Bienvenue à tous. Avant que Yann ne vienne lire notre passage du jour, saisissez-vous d'un feuillet sur vos tables et discutez peut-être de la première question, si vous voulez bien.
Alors, le passage aujourd'hui est dans Philippiens chapitre 1. On va lire des versets 27 jusqu'au verset 11 du chapitre 2. Et vous pouvez le trouver à la page 771. Des bibles sur les tables. Donc Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Comment est-ce que vous vous y prenez quand vous vous apprêtez à faire quelque chose d'extrême? Yalla! Quant à moi, j'ai beaucoup de mal avec les hauteurs. La dernière chose dont j'ai envie vraiment, c'est de sauter ces 10 mètres du haut d'un promontoire. Mais je fais ce qu'on attend de moi. Ma technique, c'est je cours et je saute. Je n'en suis pas très fier, mais il faut ce qu'il faut. Mes amis, les exhortations, celles que d'autres nous imposent comme celles qu'on se répète à soi-même, ça a une portée limitée. On le sait bien. Il suffit d'un échec, d'une blessure, d'une frayeur, et quelque chose se bloquera. Bon courage pour dépasser ça. Notre passage d'aujourd'hui contient des exhortations, et ça commence très fort. Verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Voilà notre premier point, cette conduite est un privilège et une responsabilité, tout à la fois. À première vue, seulement au verset 27, ça ne paraît pas déraisonnable. Seulement une chose sur laquelle se concentrer. Littéralement, se comporter comme un bon citoyen, digne de l'Évangile. Ceci dit, jusqu'à présent, c'est Paul qui nous a montré ce que ça peut vouloir dire, une telle conduite. Et si vous vous souvenez de notre passage du mois dernier, un passage plutôt intimidant. La relation à d'autres chrétiens en était bouleversée. L'attitude face à l'annonce de l'Évangile en était bouleversée. Et les perspectives sur sa vie et sur sa mort en étaient bouleversées. Et puis ce bon citoyen ici est appelé à être digne de l'Évangile du Christ. Ça n'a l'air de rien cette mention du Christ, mais ici faire référence au Christ, c'est suggérer que cette conduite va être des plus grandioses, mais aussi des plus extrêmes. Car l'image que ces versets évoquent, C'est en effet celle d'un corps d'armée en bon ordre de marche à la suite de Christ. Continuons la lecture de ces versets, toujours au verset 27. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, vous avez été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. C'est plus grandiose et plus extrême que ce que l'on veut bien envisager pour nos vies, n'est-ce pas ? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous imaginer comme des combattants au service de Sa Majesté le Christ ? Paul veut que l'on ressente le privilège qui est le nôtre si nous sommes à la suite du Christ. Par exemple, au verset 29, nous lisons « Il vous a été fait la grâce de souffrir pour Christ ». Vous auriez peut-être préféré que le Christ vous fasse la grâce de cette grâce-là, mais non. Et c'est précisément parce que Paul veut que l'on ressente ce privilège qui est le nôtre que cette formulation au verset 29 est aussi curieuse. On a endossé un uniforme prestigieux. Prenez le polytechnicien en grande tenue, le chef au tablier étoilé, l'académicien, le chef de clinique. Être à la suite de Sa Majesté le Christ, c'est un privilège qui nous est fait. Mais c'est une responsabilité également. Précisément, quelle est cette responsabilité ? Fin du verset 27, il s'agit de combattre pour la foi de l'Évangile. Ensuite, le verset 30 parle à nouveau de ce combat et nous pointe vers le combat de Paul. Regardons donc en arrière à Paul. Par exemple, au chapitre 1, au milieu du verset 7. Chapitre 1, verset 7. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, et un peu plus loin, dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Cette grâce dont Paul a parlé ici et là consiste à minima en ceci, annoncer et partager ensemble le message de l'Évangile. Notez bien que dans notre passage d'aujourd'hui, Paul ne dit pas « combattre » comme si la position de défaut était d'être au repos. Non, il insiste sur la manière de se comporter dans ce combat dans lequel le chrétien est déjà engagé. Selon Paul, on est déjà mobilisé. Et cette épître est adressée à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, chapitre 1, verset 1. Autrement dit, son contenu n'est pas réservé aux plus motivés. Et du coup, je ne m'adresse pas seulement aux plus volontaires d'entre vous, mais à tous ceux d'entre vous qui se disent chrétiens, quand je vous dis que vous êtes mobilisés à la suite de Christ. Se dire chrétien, c'est porter certains insignes, qu'on le veuille ou non. Comme ces militaires qu'on croise en uniforme dans les trains de la SNCF, de retour de permission. C'est la dignité de la fonction, où que l'on soit, quoi que l'on fasse. On ne sait trop quoi penser, n'est-ce pas ? Car c'est un poids énorme, pour vous comme pour moi. Mais avant que la gravité de la tâche ne déclenche une crise cardiaque chez certains d'entre vous, il nous faut examiner ce qui peut motiver une telle conduite et en assurer le standard. Prenez une voiture, retirez-lui son moteur. Si vous collez votre épaule sur la carrosserie et poussez fort, la voiture continuera d'avancer. Mais tout s'arrêtera quand vous arrêterez de pousser. Y a-t-il un quelconque moteur qui puisse mettre en branle et entretenir cette bonne conduite digne de l'Évangile du Christ ? Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est celui-ci. Une conduite selon un état d'esprit. Et vous le trouverez ça sur votre feuillet. Dans la vie chrétienne également, il y a bien quelque chose, un état d'esprit. Et je dis état d'esprit car à peine Paul a-t-il partagé son exhortation qu'il enchaîne avec des considérations, des choses à considérer. Il n'y a pas de secret. C'est dans la tête que tout se joue. On pourrait tout aussi bien dire que c'est dans le cœur que tout se joue. Le cœur ici, c'est le centre de la personnalité. À la fin du verset 27, un même esprit. Verset 27 encore, un même cœur. chapitre 2, verset 2, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Verset 3, « Considérez. » Enfin, verset 5, « Que votre attitude. » Rien de nouveau, ceci dit. Rappelez-vous la prière de Paul à l'égard des Philippiens, qu'on trouvait au verset 9 du premier chapitre. Tournez-vous-y maintenant. Chapitre 1, verset 9. Paul parle, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. » Paul priait pour que de plus en plus, ce soit un état d'esprit qui dispose l'amour du prochain, des Philippiens, de manière essentielle. C'est dans leur tête que tout devait commencer. On reviendra tout à l'heure sur l'état d'esprit en question. Pour le moment, réfléchissons aux implications de ce principe-ci. Une conduite selon un état d'esprit. J'aimerais suggérer trois implications. La première, ce principe, une conduite selon un état d'esprit, a pour effet de nous faire réfléchir posément. Une pause salutaire nous est offerte face aux objections qui nous assaillent peut-être. Voyez le changement de ton de Paul. À la fin du chapitre 1, on a des versets susceptibles de nous agiter. Et au début du chapitre 2, on a des versets qui respirent la paix. Et c'est bien parce que Paul veut que l'on réfléchisse posément à ce moment-là. On n'est pas censé rester tétanisé quand on se voit engagé dans un combat pour la foi de l'Évangile. On n'est pas censé être révolté non plus et en rester là quand on se voit appelé à souffrir pour Christ. Et du coup, ce midi, il nous faut faire la place pour les choses les plus fondamentales. Se poser et regarder à Jésus-Christ, sans regret ni contrainte. C'est ce à quoi les versets 1 à 5 nous invitent en effet. Mais une deuxième implication avant cela. Ce principe nous donne de l'assurance sur la cohérence du produit final. Le résultat dont Paul espérait entendre parler, c'est que les Philippiens avançaient de pair. C'est ce que nous disait le verset 27. Que j'entende dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit. Ça n'a l'air de rien. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé quelle est la probabilité pour que la conduite de 4, 15, 60 individus soit bien alignée? Essayez donc de faire en sorte que 15 joueurs de rugby soient sur une même ligne de défense, à corps et à cri. Ceux d'entre vous qui auront joué en amateur sauront que c'est pas aligné, que aligné, c'est pas gagné. Mais si en revanche la conduite est générée par un état d'esprit, alors plus besoin d'être obsédé par le respect des consignes et des directives. La ligne sera tenue. Que l'entraîneur soit présent ou qu'il soit absent ne changera rien à la conduite de son équipe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous pratiquement? Eh bien, d'une certaine manière, je n'ai pas à conformer ma conduite sur la conduite d'un autre chrétien, même Paul, ce qui m'aurait conduit à toujours faire attention à ce que lui et moi restions en phase, à toujours rester dans sa présence et l'observer. Non, j'ai mieux à faire, car quand on a assimilé l'Évangile et discerné ce qui est essentiel, on voit par nous-mêmes où et comment déployer notre énergie. Et en ce qui concerne ces autres chrétiens aux côtés desquels je sers, eh bien, si on est sur la même longueur d'onde, alors on avancera de pair, sans même concertation. Et le produit final sera une avancée de pair. Est-ce que vous voyez combien ce principe peut être libérateur pour la vie chrétienne? Il ne s'agit pas de regarder à droite et à gauche, de consulter sans cesse ou de copier les autres. Il s'agit plutôt de prendre un même état d'esprit à bras-le-corps, assimiler cet évangile et aller de l'avant au service de Christ, à notre échelle et à notre mesure. Troisième implication. Ce principe met tout l'accent sur l'état d'esprit. On est appelé à s'en remettre à un pivot et un seul. Et du coup, on se refusera au bricolage. Pas question de mettre un coup de rame à droite pour rediriger légèrement vers la gauche une conduite qui viendrait à dévier. Puis un coup de rame à gauche, puis un coup à droite, et ainsi de suite. Non, si on met le paquet sur l'état d'esprit, c'est pour de bon. pour le meilleur et pour le pire. Mais la bonne nouvelle de ce chapitre 2, c'est que dans cet état d'esprit-là, rien ne manque. Tout est là. Quand on regarde à Christ et à son évangile, il y a absolument tout ce qu'il nous faut et tout ce qu'il nous faudra jamais. Voyez les versets 1 et 2 du chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Tout est là. Et il y a bien de l'enjeu, car quand on se propose de mettre tous ses œufs dans un seul panier, il nous faut nous demander si ce panier est suffisamment solide, s'il contient bien tout ce qu'il nous faut pour générer la conduite tant attendue. En particulier, est-ce que la conduite qui va en résulter va être effectivement complète et gracieuse? Mettre tout le paquet sur l'attitude du Christ, dont l'Évangile témoigne, est-ce que ça ne va pas créer des chrétiens dont la conduite sera déficiente dans beaucoup de domaines? Après tout, c'est une critique à laquelle notre église St. Helens fait souvent face. Certains visiteurs reprochent à nos pasteurs de tout ramener à Christ dans leur enseignement. Ils s'inquiètent aussi de voir ensuite les membres de nos congrégations engagés résolument dans l'annonce et le partage de l'Évangile auprès de ceux que Dieu leur a donnés, plutôt que, par exemple, engagés dans la transformation des structures sociales ou la transformation de la culture britannique. Bien, ce passage adresse cette critique en deux temps. D'abord, il n'y a pas d'autre pivot proposé ici, et pas de meilleur pivot que cet état d'esprit du Christ. Dans le Christ, il y a tout. Une richesse phénoménale, une profondeur insondable. C'est bien Christ qu'il nous faut contempler, encore et toujours. Ensuite, si une telle contemplation doit déboucher sur l'annonce et le partage de l'Évangile du Christ, qu'il en soit ainsi. Tels ingrédients, tels résultats. Dieu sait mieux que nous quelle bonne conduite il voudra que la contemplation de son Fils génère en nous. Pour ceux d'entre vous qui découvrent le christianisme, je me rends compte que tout cela vient peut-être comme un choc. Comme vous le voyez, au cœur du christianisme, il y a une personne, Christ, autour duquel tout tourne, autour duquel toute bonne conduite va s'ordonner. Tournons-nous vers notre troisième point, l'état d'esprit de Jésus-Christ, justement. En premier lieu, cet état d'esprit, c'est la perspective d'un abaissement pour permettre le salut de beaucoup d'autres. C'est la perspective d'un abaissement pour permettre le salut de beaucoup d'autres. Verset 6, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Parce que Jésus est Dieu, il avait tous les droits. Mais parce qu'il est ce genre de Dieu, il s'est dépouillé de gloire, de respect, car il a regardé aux intérêts de beaucoup d'autres. Il a accepté de se contenter de l'absence de droit. Ce faisant, il reste pleinement Dieu, car il n'y a rien en un Dieu parfait qui puisse être renié. Mais il a choisi le mode d'existence d'un esclave, d'un serviteur, pour en servir d'autres. Voyez encore le verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ne vous y trompez pas. La croix, c'est le comble de l'abaissement. Dans l'Empire romain, la crucifixion était réservée aux plus vils d'entre tous. Ce traitement était indigne d'un citoyen romain. Alors imaginez-vous Christ en croix. Mais à quoi bon cet abaissement? J'espère que cette question aura une résonance particulière parmi ceux d'entre vous qui explorent le christianisme. Demandez-vous en effet ce qui peut bien conduire Christ à un tel abaissement. Et pour tous les autres, demandez-vous quel est le rapport entre cet abaissement extrême et le combat pour l'Évangile dont il est censé être le moteur. Bien voyez-vous, Jésus ne s'est pas dépouillé de toutes ces choses pour le plaisir. Il l'a fait pour permettre le salut de beaucoup d'autres. C'est cela l'Évangile. Et c'est l'annonce de ce même Évangile qui permet à d'autres d'être sauvés et affermis, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Cet état d'esprit, c'est une disposition vis-à-vis d'autres personnes, chrétiennes et non chrétiennes. Disposition qui s'inquiète respectivement de leur affermissement et de leur salut, quelles qu'en soient les conséquences pour nous autres. Remarquez qu'on retrouve là exactement ce à quoi le chapitre 1, versets 1 à 26, nous avait préparé. Ceci dit, c'est surtout le passage suivant que l'on étudiera le mois prochain qui nous aidera à voir ce à quoi ça peut ressembler pour nous autres d'appliquer cet état d'esprit. Pour le moment, ce début du chapitre 2 nous dit « Où regarder à Christ ?» Et il y a là effectivement une profondeur insondable. Christ en croix, une représentation courante, également dans le monde des icônes. Je ne sais pas si vous avez jamais visité un musée d'iconographie. Les icônes sont à côté les unes des autres, sans transition. Ici, une Vierge Galactotrophoussa, à côté un Christ en croix, et un peu plus loin un Christ Pantocrator, littéralement tout puissant, c'est-à-dire en gloire. C'est un peu ce qui se passe ici, deux images l'une à côté de l'autre. Sauf que l'ordre de ces images a du sens. La représentation qui suit celle du Christ en croix, au verset 6 à 8, c'est celle du Christ en gloire, au verset 9 à 11. Pourquoi une célébration ferait-elle suite à une crucifixion ? Voyez comment le verset 9 est introduit. C'est aussi pourquoi. Christ en gloire, parce que Christ en croix. En deuxième lieu donc, toujours dans ce troisième point, l'état d'esprit du Christ, c'est l'état d'esprit que Dieu célèbre au plus haut point. En un sens, Christ avait toutes ces choses décrites au verset 9 à 11, mais il n'avait pas tout cela en tant que rédempteur. Mais parce que Jésus est prêt à passer par la croix, il en ressort en gloire, pleinement Dieu et pleinement homme, avec tous les peuples à ses pieds, unis dans une confession unanime. Jamais personne n'a incarné un abaissement aussi extrême et délibéré. Jamais personne n'a reçu une telle gloire. Alors à l'avenir, quand vous pensez se mettre au service des autres, pensez aussi recevoir l'approbation de Dieu. Mais malgré tout ça, je me demande si vous y croyez, qu'il n'y a rien de plus magnifique que cette sorte de service. Car être prêt à s'abaisser et se mettre au service des autres, ça défie le bon sens. C'est pourquoi nous n'en serons jamais convaincus, à moins que nous prenions la résolution de regarder à Christ, encore et toujours. Il nous faut désormais conclure. Si vous vous dites chrétien, c'est là un privilège et une responsabilité. Il y a fort à faire pour la défense et l'affermissement de l'Évangile à la suite de Christ. Mais Paul ne vous demande rien que vous ne puissiez faire, car vous n'avez qu'à contempler Christ et faire en sorte qu'il occupe vos pensées. Je vous invite donc ce midi à vous imprégner de l'état d'esprit du Christ. Voilà le moteur, voilà ce qui est essentiel. Toute bonne conduite s'en suivra. Vous trouverez quelques questions à discuter sur vos feuillets, mais avant cela, je vous propose de prier ensemble. Prions. Père céleste, livrés à nous-mêmes, nous ne pourrions pas vivre des vies dignes de l'Évangile du Christ. Mais en Christ, tu as confiné toutes les ressources de motivation qu'il nous faudra jamais. Et nous t'en remercions. C'est toi qui nous permets de comprendre la démarche du Christ. Donne-nous de discerner ce qui est essentiel et d'investir nos vies en conséquence. que l'attitude du Christ puisse animer nos esprits et orienter nos paroles et nos actes, à tel point que Christ soit notre vie. C'est en son nom que nous prions. Amen.